Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins s'interrogent tous les jours sur la nature de la dialectique en compagnie de Tristan Grenassia, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Géraldine Mosna-Savoie et Pierre Folliet. À la lecture des textes cette semaine, un duo duel Jean-Louis Jacopin et Georges Clès, à la réalisation historique David Jacubovies avec aujourd'hui la prise de son structuraliste Jacques Azubert. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui 40 ans à la croisée des chemins, un livre de Christopher Hamilton publié aux éditions Autrement. Duel de philosophes, troisième temps. Après Locke contre Leibniz lundi, Platon contre Protagoras hier mardi et avant Habermas contre Rawls demain jeudi, c'est aujourd'hui un duel des années 60 qui est à l'honneur non pas entre Beatles et Rolling Stones, mais entre Jean-Paul Sartre et Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire entre existentialisme et structuralisme, qui place en son centre la question de la refondation de l'anthropologie, en questionnant la nature de la dialectique et de l'histoire. Un programme chargé, une controverse que nous avons 50 minutes pour retracer et qui a pour point de départ l'échange que voici.
Le savant moderne considère la raison comme indépendante de tout système rationnel particulier. Pour lui, la raison, c'est l'esprit comme vide unificateur. Le dialecticien, lui, se place dans un système. Il définit une raison. Il rejette a priori la raison purement analytique du XVIIe siècle où, si l'on veut, il l'intègre comme le moment premier d'une raison synthétique et progressive. La raison dialectique dépasse le cadre de la méthodologie. Elle dit ce qu'est un secteur de l'univers, ou peut-être ce qu'est l'univers entier. Elle ne se borne pas à orienter les recherches, pas même à préjuger du mode d'apparition des objets. Elle légifère, elle définit le monde humain ou total tel qu'il doit être pour qu'une connaissance dialectique soit possible.
Ce à quoi Claude Lévi-Strauss répond dans La pensée sauvage.
Sartre attribue à la raison dialectique une réalité sui generis. Elle existe indépendamment de la raison analytique, soit comme son antagoniste, soit comme sa complémentaire. Pour nous, la raison dialectique est toujours constituante. Le terme de raison dialectique recouvre ainsi les efforts perpétuels que la raison analytique doit faire pour se réformer si elle prétend rendre compte du langage, de la société et de la pensée. Et la distinction des deux raisons n'est fondée, à nos yeux, que sur l'écart temporaire qui sépare la raison analytique et l'intelligence de la vie. Sartre appelle raison analytique la raison paresseuse. Nous appelons dialectique la même raison, mais courageuse, cambrée par l'effort qu'elle exerce pour se surpasser.
Bonjour Florence Kemex.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
Vous êtes maître de recherche au FNRS à l'Université de Liège, c'est-à-dire au Fonds National de la Recherche Scientifique. Vous avez publié il y a quelques années un ouvrage sur les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien, Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. Oui. Et à vos côtés en studio se trouve Gilda Salmon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS à l'Institut Marcel Mauss et auteur d'un ouvrage paru l'an dernier intitulé « Les structures de l'esprit, Lévi-Strauss et les mythes » disponible au PUF. Et c'est donc grâce à vous deux que nous allons essayer de comprendre les enjeux de cette controverse entre Sartre et Lévi-Strauss. Florence Kemax, pour essayer de commencer de comprendre l'enjeu du texte que l'on vient d'écouter, hein, donc on a entendu qu'une des questions était de savoir comment définir la raison dialectique. Qui répond à qui dans ce texte? Quel est le point de départ en fait, de cette controverse?
Alors, je crois qu'on peut dire que le point de départ, c'est au fond un même enjeu pour les deux auteurs, quoique pour eux, aborder cet enjeu suppose une problématisation différente. Et cet enjeu, en gros ou en général, c'est la question de ce qui rend compréhensibles les faits humains, et plus particulièrement les faits humains en tant que sociaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu de la discussion, c'est la fondation de l'anthropologie, ou même la question de la condition de possibilité d'une anthropologie. Et dans ce questionnement sur l'anthropologie, qu'est-ce qu'une anthropologie, qui est quand même une question date au moins de la philosophie kantienne, qui remonte à la philosophie kantienne, et bien dans ce questionnement, on interroge la place qu'il faut accorder à ce que l'on appelle les structures, ou à ce qui s'appelle les structures, depuis au moins, mais ça c'est Gilda Salmon qui va me compléter, depuis au moins les structures élémentaires de la parenté.
Quand vous parlez d'anthropologie, comment est-ce que vous définissez l'anthropologie ?
Alors, l'anthropologie, c'est à la fois, ça désigne à la fois les sciences de l'homme, les savoirs qu'on peut élaborer et accumuler au sujet de l'existence humaine ou de la vie humaine, dans tous ses aspects. Et en même temps, l'anthropologie a toujours eu, je crois aussi, une portée philosophique, c'est-à-dire que c'est un type de questionnement qui est porté par une ambition plus large qu'une simple accumulation de connaissances, et qui suppose qu'on puisse donner ou élucider les conditions auxquelles on peut connaître l'homme. Voilà, ce qui est un problème depuis au moins la philosophie kantienne, je dirais.
Alors Gilda Salmon, l'extrait de Sartre qu'on a entendu vient de la critique de la raison dialectique 1960, la réponse de Lévi-Strauss de la pensée sauvage 1962. C'est en réponse directe au texte de Sartre que Lévi-Strauss écrit la pensée sauvage ?
Effectivement, c'est-à-dire que en tout cas ce dernier chapitre de la pensée sauvage où on voit en fait le moment peut-être le plus intense de la controverse est un texte que Lévi-Strauss a écrit après avoir donné un séminaire de presque un an sur la critique de la raison dialectique. Donc c'est quelque chose déjà d'assez étonnant qu'un anthropologue prenne un temps très long dans son séminaire pour examiner les propositions d'un philosophe, Sartre. Et c'est quelque chose, je pense, par rapport à ce que disait tout de suite Florence Kaymax, qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans les années 60 à un moment où il existe des sciences de l'homme qui sont constituées en disciplines autonomes de la philosophie. Et donc même si on peut parler de duel de philosophes, il faut être attentif à la situation assez différente qu'ils ont l'un et l'autre par rapport à ces savoirs. Lévi-Strauss, lui, est anthropologue. Il est engagé dans la production d'un savoir ethnologique, alors que Sartre se pose dans une position philosophique qui est bien apparente dans cet extrait, et que le titre même de Critique de raison dialectique dit bien qu'il y a une position de fondation de ces savoirs, en fait. Un critique de la raison dialectique, c'est une référence à Kant, c'est-à-dire la critique de la raison pure, où la question est de savoir comment est-ce que les sciences physiques sont possibles, à quelles conditions est-ce qu'elles sont possibles. Et Sartre veut en fait répéter le même geste sur les sciences de l'homme, et en particulier l'anthropologie.
La querelle s'organise autour du terme et de sa définition possible, ou des définitions plurielles possibles, de dialectique. Alors peut-être, avant d'aller plus loin, Florence Kaymax, une petite mise au point sémantique. Comment est-ce que Sartre définit la dialectique et en quoi est-ce que Lévi-Strauss s'oppose à cette définition ?
Alors, c'est une chose très difficile que de définir la dialectique. D'ailleurs, elle ne se définit pas, elle se met seulement en œuvre. Mais disons quand même ceci, c'est que la dialectique, ici, a une signification qui remonte évidemment à la philosophie hegélienne, mais plus particulièrement à Marx, qui est à cette époque-là, dans ces années-là, les années 50, pour Sartre, un point, comment est-ce qu'on va dire, un point de référence théorique majeur. Et il est vrai que la critique de la raison dialectique, que Sartre publie en 1960, a aussi l'ambition de fournir les conditions de possibilité d'une intelligibilité dialectique et matérialiste, c'est-à-dire que son ambition est aussi quelque chose comme une refondation du marxisme. Alors dialectique ici, ça veut dire beaucoup de choses, mais je dirais que peut-être le principal, c'est pour Sartre d'établir en quelque sorte un plan depuis lequel on peut penser l'histoire, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, la dialectique elle est historique, un plan depuis lequel on peut penser l'histoire, et ce plan selon Sartre, c'est un plan qu'il définit comme anthropologique lui-même, c'est-à-dire un plan humain, c'est un certain point de vue. C'est un point de vue qui suppose qu'on ne puisse pas clôturer ou totaliser la connaissance de un, et qui suppose que l'on circule sans cesse, continuellement, entre la pensée et ce à quoi la pensée est exposée, c'est-à-dire à une situation ou, disons, à des faits historiques. Voilà, ça c'est peut-être le premier point à souligner pour la définition sartrienne de la dialectique ou pour l'approche sartrienne de la dialectique. Parce que je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un côté et de l'autre d'un philosophe dialectique et d'un philosophe non dialectique, parce qu'il y a bien une revendication à une certaine dialecticité chez Lévi-Strauss, mais qui s'opère d'une manière tout à fait différente. Voilà.
Oui, parce que pour Sartre, la raison dialectique a une dimension, disons, purement théorique. Et c'est ce que Lévi-Strauss va lui reprocher, d'ailleurs, Gilda Salmon.
Alors, je ne dirais pas tout à fait les choses de cette manière. Pour moi, quand même, pour qu'on comprenne bien les enjeux dont il est question, la dialectique, c'est une progression qui s'appuie sur la négation. Et on retrouve bien l'existentialisme de Sartre, hein, tel qu'il avait été énoncé dès L'être et le néant, ou dialectique, hein, même si effectivement il y a un chemin qui mène à la critique de la raison dialectique, mais désigne d'abord cette capacité qu'a la conscience de nier des déterminations objectives pour se projeter. Hein. C'est le projet qui, pour Sartre, est l'être même hein, de la conscience humaine. Et la raison dialectique, pour lui, c'est justement... La raison analytique, ça correspond à la raison scientifique. Et la raison dialectique, c'est ce qui va dépasser le niveau de l'objet pour atteindre justement ce niveau du sujet défini par la dimension du projet. Donc, chez Sartre, on voit bien que cette définition-là de la raison dialectique le place dans un rapport assez tendu avec les sciences humaines. Puisque les sciences humaines, quand même, essayent d'objectiver, hein, de traiter l'homme comme un objet. Et c'est ce à quoi Sartre, en fait, essaye de faire une place dans la critique de la raison dialectique. Hein, c'est-à-dire, on est dans une philosophie qui, a priori, n'est pas faite pour ça. Hein. L'existentialisme, c'est une philosophie de la conscience, du sujet. Hein. Avant tout, dans l'être et le néant, une philosophie de la conscience individuelle, hein, du choix individuel aussi. Et il y a tout un effort qui est fait par Sartre, donc entre les années 40 et les années 60, pour donner une place aux sciences humaines. Et donc, se dire quelle place donner à ces savoirs qui objectivent l'homme.
C'est-à-dire que la dialectique pour Sartre est un moyen de ne pas réduire l'homme à un état de fait ou de choses, alors même qu'il est ressaisi par les sciences humaines, on pourrait le dire ainsi ?
Exactement. Et du coup, ça lui amène à donner une place très particulière aux sciences humaines, c'est-à-dire qu'il va faire droit au fait que des savoirs puissent prendre l'homme pour objet, mais simplement dans des moments. C'est-à-dire que les sciences humaines ne vont pouvoir rendre compte de l'homme que dans les moments où il n'est pas justement ce projet actif. Et donc, chez Sartre, dialectique va désigner ça, ces moments, disons, où l'activité est faible, où elle retombe, et où l'homme peut être traité comme un objet, et au contraire, des moments d'historicité intense où un groupe se forme et agit ensemble en niant les structures que justement les sciences humaines ont dégagées.
Mais cette opposition entre les structures d'un côté, enfin le structuralisme d'un côté et l'existentialisme de l'autre, elle est très schématique. Les choses ne se réduisent pas à cette opposition frontale, Florence Camax.
Alors en effet, on peut la compliquer, c'est-à-dire que, comme Gildas vient de l'expliquer, la notion de structure, l'idée même de structure, a sa place dans l'exposé dialectique, disons, de la vie en société, de la vie sociale, de la vie humaine. Elle a sa place, mais elle a sa place au titre de ce que Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire ce que le savant peut apercevoir et qui est en réalité ou qui est dans les faits le résidu cristallisé de l'action. Et tout se passe comme si le savant analytique, celui qui s'efforce de connaître l'homme et d'accumuler des connaissances à son sujet, ne pouvait avoir affaire qu'à des formes cristallisées. Et ces formes cristallisées, qu'on peut appeler structures et qui se présentent bien comme telles, au fond, Sartre veut en rendre compte, mais il veut en rendre compte par le mouvement, disons, de l'action, de la praxis, qu'il envisage comme une praxis historique, comme un dépôt, disons, de l'histoire. Alors, ce qui est quand même assez frappant dans la critique de la raison dialectique, quand je dis que les structures y ont une place, c'est que Sartre a un concept pour ça, ou il a plus exactement une notion. Et cette notion, c'est celle de sérialité, c'est-à-dire que sous un certain aspect, et c'est aussi la raison dialectique qui restitue cet aspect de la réalité ou de l'expérience, sous un certain aspect, les sociétés humaines, le fonctionnement collectif humain, tend à présenter quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, en effet de la cristallisation, et un certain type donc de structuration. Et au fond, quand Sartre parle de la sérialité, de l'existence sérielle, il tente de restituer ou de faire sa place dans la rationalité dialectique à ce qui relève pour lui de l'ordre de la structure ou du structurel. Et simplement, cette structure n'a pas d'intelligibilité entière et pleine par elle-même. Elle doit être comprise à partir d'une rationalité dialectique qui l'englobe.
Quel est votre sentiment sur l'existentialisme ?
Sartre venait de publier La critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparues coïncider avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Maintenant, je vous dirais que l'existentialisme, qui à mes yeux représente, et ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, en séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celle que nous connaissons par expérience directe et qui engage nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore.
France Culture, Les nouveaux chemins de la connaissance,
Adèle Van Rett.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, donc Lévi-Strauss pointe un autre domaine sur lequel il va s'opposer à Sartre, et c'est celui de la place de l'homme, non seulement au sein des sciences humaines, comment définit-on l'homme, hein, mais aussi au sein de l'histoire. La question est de savoir si nous pouvons avoir une vision, disons, totalisante de l'histoire, ou si celle-ci est un processus toujours en train de se faire, Gilda Salmon.
Oui, alors effectivement, je pense que ça nous permet de revenir à ce qui était dit tout de suite, c'est-à-dire que pour Sartre, les structures existent, mais le moment qui est intéressant, c'est le moment où elles sont niées. Et c'est ça l'histoire pour Sartre, c'est la négation des structures, c'est le moment où l'homme va dépasser un état de choses donné, par rapport auquel il est impuissant, et agir collectivement pour modifier ça. Mais ça, ça implique une conséquence que Lévi-Strauss donne dans cet extrait, c'est-à-dire que l'histoire, tout le monde ne l'a pas au même titre. Et effectivement, ce sont les civilisations occidentales qui vont être les véritables dépositaires de cette histoire, hein, par opposition aux sociétés qu'étudie l'ethnologue, qui vont apparaître pour Sartre comme des sociétés sans histoire, ou en tout cas qui ont un rapport compliqué, une histoire un peu abortive. Et Lévi-Strauss, en tant qu'ethnologue, ne peut pas accepter ça. Et je pense que ça, ça doit nous amener à définir cette fois-ci hein, ce que veut dire dialectique chez Lévi-Strauss, qui est un point sur lequel on est passé tout à l'heure. Et effectivement, hein, on aurait tort de dire que Lévi-Strauss n'est que du côté de la raison analytique. Ce qu'il conteste, c'est qu'il y ait une opposition entre, l'analyse scientifique et la dialectique. Et ça, parce qu'il a, lui, une conception très différente de la dialectique, qui n'est pas un mouvement de négation du donné par un sujet, hein, mais qui est au contraire une dialectique interne aux phénomènes sociaux. Hein. Et Lévi-Strauss, qui est engagé dans un processus de connaissance scientifique de ces phénomènes sociaux, veut nous dire que la raison scientifique, ça n'est pas simplement la raison qui rend compte de l'inerte, comme le croit Sartre, c'est la raison qui rend compte de réalités beaucoup plus complexes, comme le langage, hein, qui est le modèle des structuralistes, ou la société, et que pour rendre compte de ce langage ou de cette société, il faut voir qu'on définit une raison qui n'a rien à voir avec la raison que Sartre appelle ossifiée, inerte, des sciences de la nature. Hein, dans le langage, c'est la découverte, de Saussure que Lévi-Strauss va reprendre à son compte, il y a des relations entre les éléments, hein, c'est-à-dire qu'un signe dans le langage ne peut être défini que par ses relations avec les autres signes. Mmh. Hein. Et Lévi-Strauss, en fait, veut reprendre la même idée pour l'adapter aux sociétés, et il veut dire, du coup, que les sociétés ne se conçoivent que les unes par rapport aux autres. Hein. Et donc, du coup, là où Sartre privilégier le mouvement de l'histoire, c'est-à-dire d'un groupe qui nie son passé pour se projeter vers un futur. Au contraire, Lévi-Strauss veut privilégier les relations, on pourrait dire horizontales ou latérales, entre une société et ses voisines. Et du coup, pour lui, le mode d'articulation que recouvre la dialectique, c'est justement celui qui prend en compte la diversité des cultures, hein, c'est le comparatisme. Alors que pour Sartre, effectivement, c'est l'histoire ce qui l'amène à cette conséquence que certains sont dépositaires de l'histoire et d'autres non.
Mais est-ce que ça veut dire, Florence Kemax, que la controverse aurait pour point de départ un simple, entre guillemets, malentendu sur le terme même de dialectique ?
Alors non, je ne crois pas. Et dans le moment où Lévi-Strauss s'empare du terme de dialectique, je crois qu'il lui fait subir à l'intérieur une mutation qui est très très forte. Alors sur un point, on peut ne pas développer parce que c'est un point assez technique. Gilda Salmon parlait tout à l'heure de la négation. Il faut quand même bien voir que le sens de la dialectique chez Sartre, le sens qui lui est donné par rapport à ce qu'il appelle une totalisation, veut que comprendre les faits humains, leur donner une intelligibilité, comme ça Sartre dit, ça suppose de les comprendre à partir d'un schème qui est celui de la contradiction. Et il me semble que quand Lévi-Strauss s'empare de la notion de dialectique, il fait valoir, au fond, pour l'intelligibilité, en effet, l'idée de la différence, la notion de la différence, elle est chez Sartre aussi, à savoir que c'est ce qui l'intéresse, c'est l'événement, c'est ce qui produit de la nouveauté, de la différence dans l'histoire, c'est ce qui fait différer sans doute les structures, etc. C'est bien la différence qui les intéresse tous les deux, mais c'est pas du tout la même manière de la penser. Mmh. Et c'est vrai que chez Sartre, l'horizon dialectique reste, en dépit de la notion de totalisation qui est chez lui quelque chose de tout à fait novateur et tout à fait intéressant, en dépit de cette mise en avant d'une logique de, on pourrait dire, de l'altération ou de l'altérité qui est interne aux sociétés humaines, l'horizon de la totalité est au fond un horizon d'unification qui a pour nom histoire chez Sartre. Et ça, je pense que c'est le vrai point de la controverse, à savoir, si on veut pouvoir penser l'humanité, quelque chose comme l'humanité, à partir de ces différences, dont on pourrait dire que ce projet est à la fois chez Sartre et Lévi-Strauss, l'enjeu reste de savoir comment on pense cette différence. Et je crois que dans ce que vous avez souligné en commençant, il y a un enjeu qui est tout à fait important et qui est de nature politique, c'est-à-dire, est-ce que l'histoire est le bon point de vue et est-ce que l'histoire constitue le point de repère le plus adéquat quand on cherche à penser quelque chose comme l'humanité et justement à combattre ce qui, sur la base de la différenciation, devient de l'exclusion, devient de la discrimination, devient de la négation au sens le plus pratique du terme. Parce que Sartre était non moins que Lévi-Strauss, évidemment, un adversaire du colonialisme, et il y a un colonialisme qui est un colonialisme historique, mais il y a aussi un colonialisme dans la pensée. Et la réflexion de Lévi-Strauss ici au sujet de l'histoire et qui ne cesse de renvoyer Sartre à son mythe en disant « le mythe de Sartre, c'est l'histoire », eh bien, c'est dénoncer quelque chose qui reste de ce colonialisme dans la pensée et qui tient au fond à l'idée d'histoire comme unification de l'humanité.
Nous lâcherions ainsi la proie pour l'ombre, le clair pour l'obscur, l'évident pour le conjectural, la vérité pour la science-fiction. Sartre, page 129. Mais encore faudrait-il que Sartre puisse démontrer qu'il échappe lui-même à ce dilemme, inhérent à tout effort d'explication. La vraie question n'est pas de savoir si, cherchant à comprendre, on gagne du sens ou on en perd, mais si le sens qu'on préserve vaut mieux que celui à quoi on a la sagesse de renoncer. À cet égard, il nous semble que de la leçon combinée de Marx et de Freud, Sartre n'a retenu qu'une moitié. Ils nous ont appris que l'homme n'a de sens qu'à la condition de se placer au point de vue du sens. Jusque-là, nous sommes d'accord avec Sartre. Mais il faut ajouter que ce sens n'est jamais le bon. Ainsi aboutit-on au paradoxe d'un système qui invoque le critère de la conscience historique pour distinguer les primitifs des civilisés, mais qui, à l'inverse de ce qu'il prétend, est lui-même anhistorique. Il ne nous offre pas une image concrète de l'histoire, mais un schéma abstrait des hommes faisant une histoire telle qu'elle puisse se manifester dans leur devenir sous la forme d'une totalité synchronique. Il se situe donc vis-à-vis de l'histoire comme les primitifs vis-à-vis de l'éternel passé. Dans le système de Sartre, l'histoire joue très précisément le rôle d'un mythe.
Yes?
Tu as formé des messages?
Oh. You want a massage, eh?
If you have one for me, yes.
Yeah. Why don't you talk Tokyo Lil, the end of the block? Ask for Passion Flower Shirley, the Yokohama butterfly.
And why should I do that?
Well, you want a massage, don't you?
Yes, but I want it from you.
Sir,
I don't give massages.
But you gave me one only this morning.
See, you're mistaken.
Look, don't you try the tricks anglais with me, monsieur. I received a massage this morning from Inspector Quimland of the Yard of Scotland.
The massage!
And it was you that gave it to me.
Message!
What?
You mean message?
Look, I know what I mean, you lunatic. Now, do you or do you not have for me the massage?
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26, c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrées au duel de philosophes. Et aujourd'hui, c'est de Sartre et de Lévi-Strauss que nous parlons en compagnie des philosophes Florence Kemax et Gilda Salmon.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off.
Florence Kemax et Gilda Salmon, ce qui est assez intéressant quand on lit les textes de presse de Lévi-Strauss et de Sartre, enfin Lévi-Strauss qui répond beaucoup à Sartre, vous l'avez dit, Gilda Salmon, il a beaucoup lu la critique de la raison dialectique, il a enseigné même sur ce texte, donc il le connaît de très près, c'est qu'il semble souvent faire à Sartre le reproche d'un sens mal compris. C'est qu'il tend à ramener finalement l'enjeu de la querelle à des distinctions quasiment sémantiques. Et ça, c'est assez étonnant parce que du coup, on a l'impression qu'il botte en touche et qu'il n'affronte pas la querelle qui pourtant, idéologiquement, est extrêmement forte.
Alors, je dirais pas tout à fait ça comme ça parce que je pense qu'il y a une querelle sur le statut même du sens, en fait. C'est-à-dire que pour le structuralisme, ce qu'a à faire les sciences de l'homme, c'est pas donner un sens à l'existence humaine. Au contraire, peut-être, du projet de Sartre. Et le structuralisme se présente d'abord comme une relativisation de la place du sens. C'est-à-dire, il s'agit de comprendre comment le sens est produit, mais produit comme un effet d'un système de signes. Et ce qui intéresse Lévi-Strauss, c'est l'architecture de ces systèmes de signes. Pourquoi ça ? Est-ce que ça, c'est intéressant pour l'ethnologie ? Parce que, d'abord, les approches, des mythes, d'autres sociétés qui se placent du point de vue du sens ont un rendement assez faible parce qu'elles dégagent un sens qui n'est pas très intéressant. Les ethnologues qui ont essayé d'interpréter les mythes du point de vue du sens en fait se heurtent avant tout à l'absence de sens, c'est-à-dire à la difficulté pour nous de donner un sens à des récits qui nous apparaissent comme absurdes, ou alors ils les ramènent à des choses très très pauvres, proches du sens commun. Et donc tout l'effort de Lévi-Strauss dans le cas des mythes, ça a été de montrer que les mythes en fait sont avant tout le déploiement d'une grille d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les contrastes qui comptent pour une société, et le mythe permet d'accéder à ça. Et du coup, on rejoint l'autre aspect de l'extrait qui était proposé, qui est l'histoire comme mythe. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que Lévi-Strauss fait ce reproche à Sartre ? Parce que le mythe, tel qu'il intervient dans ce texte-là, c'est quelque chose qui se présente comme un récit d'événements passés, mais qui est en même temps une grille d'intelligibilité pour l'action au présent. Ça, c'est le statut du mythe tel qu'il est dans les sociétés qu'étudient les ethnologues. Et en fait, pour Lévi-Strauss, Sartre fait jouer exactement le même rôle à l'histoire. C'est-à-dire que quelque chose qui se présente comme un récit d'événements passés, en particulier le récit de la Révolution française, qui joue effectivement dans le texte de Sartre un rôle tout à fait privilégié. C'est-à-dire qu'on parle de l'histoire, mais quand même pas de n'importe quelle histoire. Il y a des temps qui sont beaucoup plus significatifs que les autres, et avant tout celui de la Révolution, justement comme mise en cause des structures existantes. Eh bien, la Révolution joue chez Sartre le rôle d'un mythe, puisque un récit d'événements passés vaut en même temps comme un ensemble d'éléments pour s'orienter dans l'action au présent.
Et donc, où est le problème ?
où est le problème ? C'est que pour Lévi-Strauss, le travail de l'ethnologue, ça n'est pas d'adhérer à un mythe. Le mythe a son utilité dans la société dans laquelle il fonctionne. Mais le but de l'ethnologue, ça n'est pas d'adhérer à un mythe, mais d'analyser la production du mythe, hein, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne.
Florence Kemax.
Oui, alors c'est très intéressant cette dernière réflexion, mais je voudrais revenir sur celle que Gildas faisait juste auparavant sur la question du sens, parce que je crois qu'effectivement, c'est bel et bien là-dessus aussi que nos philosophes se divisent. En effet, le statut du sens ou de la signification, chez Sartre, il est tout à fait différent. Et à mon avis, sa racine, elle est... comme d'ailleurs, on pourrait dire, les racines philosophiques de Sartre, sont effectivement ailleurs. Elles ne sont pas chez Saussure, elles ne sont pas dans un travail mené sur la langue, elles sont dans la phénoménologie. Mm-hmm. Et la phénoménologie est une discipline philosophique, est une méthode philosophique, plus exactement, qui s'est élaborée en interrogeant très exactement la question du sens ou de la signification. Mais comment comprend-elle la signification ? Elle va placer la signification ou le problème de la signification dans la question de la référence. C'est-à-dire... pour le dire vite, d'un rapport entre un sujet, une pensée ou éventuellement une conscience qui est comprise comme une puissance de signification et le monde qu'elle a face à elle. Alors, toute la question est de savoir si ce monde, c'est un monde perçu, etc. Je n'entre pas là-dedans. Mais en tout cas, la question du sens, vous voyez, ne se pose pas au niveau d'un système de signes, mais c'est un questionnement qui va toujours ramener le signe à sa référence, à quelque chose comme une extériorité. Et c'est pourquoi, quand on se situe sur ce plan-là, la dialectique n'est pas quelque chose qui joue comme un système de différence sur le plan immanent des signes, mais la dialectique se joue entre... alors, pas exactement un sujet et un objet, parce que Sartre est un philosophe qui tente de dépasser l'opposition sujet-objet, bien qu'elle revienne comme un refoulé constamment dans sa philosophie. Mais au moins, on se place sur un plan qui est celui du rapport entre la conscience et le monde, ou pour le dire de manière plus abstraite et moins connotée, entre quelque chose comme une intériorité et une extériorité. Et c'est pour ça que la question de la signification et du sens, elle se joue toujours entre les deux, comme un mouvement d'intériorisation-extériorisation.
Il ne peut pas non plus faire le reproche à Lévi-Strauss de ne pas prendre en compte une extériorité dans son travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il s'inscrit dans une forme de structure des signes et où le sens serait immanent à cette structure-là qu'il n'y a aucune dénotation dans sa pensée du sens.
Oui, mais je crois que ce que Sartre a très bien vu en un sens et qu'il ne pouvait admettre et que Lévi-Strauss savait très bien, c'est que bien sûr, il y a une extériorité. Et il y a même un rapport direct chez Lévi-Strauss de la pensée à l'extériorité. Mais cette extériorité, elle est pour ainsi dire, je crois, chez Lévi-Strauss, matérialisé dans la représentation ou le modèle qu'est un système de signes.
Donc ils font le même reproche en fait. Lévi-Strauss reproche à Sartre de faire de l'histoire un mythe et Sartre reproche à Lévi-Strauss de faire du sens même ou d'être dans un sens qui est purement abstrait de représentation. Gilda Salmon, Florence Kemax. Gilda Salmon.
Alors je pense pas que Sartre reproche à Lévi-Strauss d'être dans un sens abstrait. Je pense que ils ne peuvent pas s'entendre effectivement sur cette question parce que pour Sartre, la question du sens, c'est la question de donation de sens. C'est celle d'un sujet qui, en se dépassant vers un projet, va donner un sens aux choses. Pour Lévi-Strauss, cette question-là n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Hein, la question, c'est plutôt de voir que le sens est produit indépendamment presque de ce que le sujet veut dire. Hein, le sens, il est effectivement déposé dans un système de signes et de ce point de vue-là, ce sont les rapports effectivement, intérieurs au système qui sont plus importants que la manière dont le sujet utilise et s'approprie le langage.
Florence Kemax ?
Oui, c'est tout à fait ça, à savoir qu'il reste cette idée, je pense, chez Sartre, et c'est là où, quelque part, il est le représentant, disons, quand même, d'une version humaniste de l'anthropologie, un humanisme rénové, un humanisme qui n'a rien à voir avec celui des maîtres de la philosophie du début du XXe siècle, certes, mais il est humaniste en ce sens que, pour lui, si vous voulez, quand on se situe sur le plan de l'humain, on a affaire à un ordre de signification, au sens où l'homme, ce qui le distingue des choses dans son être, ou parce qu'il est précisément une existence, ce qui le distingue d'une chose, c'est qu'il est dans un rapport signifiant à son environnement. Et en ce sens, l'humain, ce qui distingue l'humain, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une essence, etc. C'est le fait qu'il est pris dans un régime qui est celui d'un régime de signification. Mais ce régime de signification n'existerait pas sans qu'existe l'humanité elle-même.
Et c'est cette spécificité-là de l'humain que Lévi-Strauss peine à reconnaître ?
Disons que je pense que tous les deux ont vu le danger qu'il y avait à avoir une définition de l'homme fermée, hein, parce que notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale, qui est pour tous les deux un horizon de pensée très important, où on a vu qu'une définition fermée de l'humanité pouvait avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Alors Sartre, la manière dont il essaye de sortir de cette difficulté, c'est de dire qu'il n'y a pas d'essence humaine au sens d'une série de déterminations positives qui permettraient de clore une définition de l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que l'humanité, du coup, se trouve comme puissance de négation, hein, comme puissance de projection. Le paradoxe, c'est que ça l'amène quand même à donner une humanité plus haute à certaines cultures qu'à d'autres, celles qui sont engagées dans l'histoire. Pour Lévi-Strauss, le problème de ne pas clore la définition de l'humain est tout aussi importante, mais pour lui, ça doit se faire d'emblée au niveau de la diversité des sociétés. Hein, le phénomène premier pour partir de l'humain, c'est de rendre compte de l'ensemble de la diversité des sociétés. Et même au-delà de ça, hein, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui va très loin de ce point de vue-là. Il refuse même de définir l'humanité dans son ensemble par opposition au reste. Hein,
c'est la spécificité de l'humanité qui n'est pas reconnue comme telle par Lévi-Strauss.
C'est pas qu'elle soit pas reconnue comme telle, c'est que Lévi-Strauss, en fait, de ce point de vue-là, hein, est assez précurseur par rapport à des préoccupations qui sont devenues beaucoup plus importantes maintenant, pense que le fait de couper l'homme de la nature, hein, c'est ce même geste qui va se répéter ensuite à l'intérieur de l'humanité, pour désigner des humanités plus hautes et des humanités plus basses. Et donc pour lui, le fait même d'introduire une coupure entre un domaine qui soit privilégié et pourvu de valeur, celui de l'humain, et un domaine qui serait du côté de l'ustensilité, qui serait à notre disposition, qui serait la nature, pour Lévi-Strauss, c'est déjà s'engager en fait, dans un processus de discrimination qui pose un vrai problème.
Voilà, ce qui est une autre façon de le dire. Alors, laissons-leur la parole. Sartre, d'un côté, dans la critique de la raison dialectique, Lévi-Strauss, de l'autre, la réponse qu'il en fait dans La pensée sauvage, interprétée par respectivement Jean-Louis Jacopin et Georges Claes.
La rareté fonde la possibilité de l'histoire humaine et non sa réalité. Autrement dit, elle rend l'histoire possible. La raison de cette restriction est qu'il existe des sociétés arriérées qui souffrent, en un sens plus que d'autres, de la disette ou de la suppression saisonnière des ressources alimentaires, et qui pourtant sont classées, à juste titre, par les ethnographes comme des sociétés sans histoire, fondées sur la répétition. Cela signifie que la rareté peut être grande. Si un équilibre s'établit, pour un mode de production donné, et s'il se conserve d'une génération à l'autre, il se conserve comme exis, c'est-à-dire à la fois comme détermination physiologique et sociale des organismes humains. Ce qui correspond idéologiquement à une décision sur la nature humaine. L'homme, c'est cet être rabougri, difforme.
Sartre se résigne à ranger du côté de l'homme une humanité rabougrie et difforme. Mais non sans insinuer que son être à l'humanité ne lui appartient pas en propre et qu'il est fonction de sa prise en charge par l'humanité historique. Soit que, dans la situation coloniale, la première ait commencé à intérioriser l'histoire de la seconde, soit que, grâce à l'ethnologie elle-même, la seconde dispense la bénédiction d'un sens à une première humanité qui en manquait. Dans les deux cas, on laisse échapper la prodigieuse richesse et la diversité des mœurs, des croyances et des coutumes. On oublie qu'à ses propres yeux, chacune des dizaines ou des centaines de milliers de sociétés qui ont coexisté sur la Terre s'est prévalue d'une certitude morale pour proclamer qu'en elle se condense tout le sens et la dignité dont est susceptible la vie humaine.
Donc Sartre d'un côté, Lévi-Strauss de l'autre, l'opposition qu'on entend ici, c'est celle, vous pouvez le dire, enfin, la controverse porte entre l'opposition entre la pensée sauvage et la pensée rationnelle. C'est quand même assez étonnant, Florence Camax, d'entendre Sartre parler, évoquer les ethnographes qui, à juste titre, classent des sociétés comme des sociétés sans histoire. On connaît la postérité qui a eu cette expression de société sans histoire. Je pense au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui, en 2007, en Afrique, vient dire que le peuple africain est un peuple sans histoire. Il y a sans doute un grand malentendu derrière ce que veut dire cette expression-là. Donc peut-être que ça vaut la peine que vous nous expliquiez ce que ça signifie pour Sartre.
Alors, je ne sais pas si on peut trancher le malentendu, parce qu'avec le recul, il me semble qu'on a les critiques que l'on a faites, les critiques variées qu'on a faites aux conceptions successives de l'histoire, se sont révélées très très fécondes sur le plan politique, à savoir comment doit-on écrire l'histoire, ou qu'est-ce que ça implique d'écrire l'histoire, et quelles sont les conséquences de certaines manières d'écrire l'histoire. Bon, alors, je ne vais pas développer ça, c'est sans doute quelque chose qui a été fait sous l'impulsion de Michel Foucault après Lévi-Strauss. Je crois que chez Sartre, à la fois, il y a cette idée que l'humanité forme quelque chose comme un tout, mais c'est toujours un tout détotalisé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas subsumer justement sous une essence ou sous une commune nature, évidemment. Mais elle a quand même quelque chose comme une unité. Et son unité, elle est simplement là parce qu'elle est pensable, tout simplement parce que le plan anthropologique, le point de vue, ou on va dire le plan tracé par le philosophe, qui est celui de voir l'humanité depuis l'humain ou avec les yeux de l'humain, au fond, c'est situé sur le plan du sens. Et je pense qu'il n'y a pas de doute que Sartre crédite, au fond, toutes les formes d'humanité d'appartenir à ce plan du sens. Maintenant, le fait que lui privilégie évidemment, on va dire, la perspective historique pour penser l'unité de cette humanité, rend toute une série de différences peut-être problématiques, parce que l'histoire exige qu'on les range, qu'on les mette dans un certain ordre, parce que l'histoire, elle a quand même aussi quelque chose comme un sens ou comme une direction. Ces directions n'étaient pas écrites d'avance, mais elle a quand même une direction.
Et quand
on doit,
pour
Sartre, et alors c'est une direction qui était contingente, c'est une direction qui est contingente, mais une fois qu'elle a été prise, quand on jette un regard vers le passé, il y a une ou des directions qui ont été prises. Et quand on essaie de restituer l'une ou les directions, eh bien, on crée des hiérarchies, on crée des différences. Et par conséquent, il faut bien assigner une place et une place différentielle aux sociétés. Et là, je crois que Sartre est pris en quelque sorte peut-être à son propre piège, à savoir que... Alors, il y a un autre problème qui est abordé dans le texte qui a été lu, qui est la question de savoir comment on peut penser cette histoire. Et Sartre veut donner, on va dire, des bases matérialistes à sa pensée de l'histoire. Et pour ce faire, il ancre toute une série de discussions dans ce problème de la rareté. Parce qu'au fond, ce qu'il veut rencontrer, c'est le problème de la distribution des ressources et au fond, de la distribution des ressources d'un point de vue économique. Et voulant ancrer sa discussion de l'histoire dans le problème de la rareté, de la distribution qui va faire aussi de la différence, il est amené à envisager les sociétés qui, à son époque, sont réputées être des sociétés disettes. Mais je crois que par la suite, il y a eu beaucoup de discussions dans l'ethnographie et l'ethnologie autour de la question de savoir si les sociétés dites primitives ou sauvages sont réellement les sociétés de rareté. Mais ça, c'est quelque chose qui viendra par la suite et qui n'est pas très présent, me semble-t-il, qui n'est pas présent dans les discussions de Sartre, qui effectivement tend à ranger ces sociétés primitives ou sauvages dans des sociétés qui sont encore, au fond, qui règlent le problème de la rareté d'une certaine manière qui les distingue des sociétés plus avancées ou des sociétés, on va dire, où l'histoire est plus chaude. Voilà.
Gilles Asselmont.
Oui, alors c'est intéressant dans ces textes de voir qu'on est au point où la polémique s'envenime. On n'est pas juste dans une discussion polie, mais enfin, Sartre parle des sociétés qu'étudie l'ethnologue comme celle qui étudie un homme rabougri et difforme, ce qui effectivement ne plaît pas beaucoup à Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, de son côté, accuse Sartre d'être complice d'un point de vue intellectuel du colonialisme, puisque les sociétés, en fait, dites sans histoire, auraient dû attendre la colonisation pour être prises dans ce mouvement de l'histoire. Donc, ça se polarise quand même d'une manière assez tendue. Alors, il y a là-dessous des enjeux que je pense importants sur cette question justement de l'histoire. Parce que pour Sartre, pourquoi est-ce que Sartre parle d'une humanité rabougrie et difforme ? Parce que pour lui, l'équilibre, c'est-à-dire le fait que ces sociétés ne soient pas tendues vers le changement, implique qu'elles s'enferment les hommes s'enferment dans leur statut de chose. Hein, il n'assume pas cette dimension du projet, il s'enferme dans, ce statut de choses. Lévi-Strauss n'est pas du tout d'accord avec cette description. Et justement, pour éviter l'expression de société sans histoire, il avance une distinction entre société chaude et société froide. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que toutes les sociétés ont le même rapport à l'histoire, mais que chaque société peut faire un choix entre deux rapports à l'histoire qui vont être, dans le cas des sociétés chaudes, d'accentuer le changement. Hein, mais ça, ça a un prix qui est l'inégalité, en fait. Hein, c'est-à-dire que le changement de plus en plus rapide ne peut se faire qu'au prix d'inégalités sociales de plus en plus grandes. Ou au contraire, les sociétés froides, qui ont un autre rapport à l'histoire, mais qui est aussi un choix, qui n'est pas une absence d'histoire, hein, qui est un choix, qui est le fait de stabiliser le changement. C'est-à-dire, c'est des sociétés auxquelles il arrive tout un tas d'événements, comme nos sociétés, mais qui, au lieu de profiter de ces événements pour changer le plus possible, essayent de rester dans une situation d'équilibre. Hein, et d'équilibre, non seulement entre eux, hein, au niveau politique, en évitant de créer des inégalités trop grandes, des hiérarchies trop grandes, mais aussi en équilibre avec leur milieu, en essayant de respecter un certain équilibre dans le prélèvement de nourriture, de ne pas chasser trop, de ne pas introduire, si on peut dire, de déséquilibre écologique. Et donc là, je crois qu'on voit bien dans ce texte que, derrière l'aspect polémique, il y a cette question de savoir si l'histoire doit être valorisé de manière assez univoque, comme le fait Sartre, ou s'il faut avoir une perspective en termes de choix, comme Lévi-Strauss, c'est-à-dire en montrant que les sociétés ont chacune un rapport à l'histoire qui a certains avantages, mais qui a aussi un prix, hein, qui est assez élevé dans le cas des sociétés chaudes.
Mais on aurait envie de leur rétorquer à l'un et à l'autre que cette idée même, cette pensée de l'histoire et cette façon de concevoir l'humanité à travers le prisme de l'histoire et le symptôme d'une certaine forme de société qui est la leur, qui est la société occidentale, et qui vient observer d'autres formes de société, en rétablissant une sorte d'échelle de valeur, les sociétés sans histoire ou les sociétés froides ou chaudes, même s'il y a peut-être une autre manière de déterminer une forme de prise, enfin un jugement qui serait peut-être plus masqué. Mais c'est ça qui ressort de cette querelle-là quand même, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas deux intellectuels occidentaux qui essayent de penser avec des outils différents des sociétés qui sont différentes et qui en cela tend à les essentialiser quand même. Il y a quelque chose d'assez normatif derrière cette démarche-là, Gilles Salmon.
Alors, effectivement, hein, on ne peut pas échapper au fait que ce sont des penseurs qui s'inscrivent dans une tradition occidentale et qui se penchent sur d'autres cultures. Ceci dit, je pense que la différence entre les deux est quand même sensible, dans la mesure où pour Lévi-Strauss, il s'agit de voir deux possibilités différentes. Hein. Et surtout, le point auquel il faut revenir, c'est que pour Lévi-Strauss, l'histoire n'est pas la modalité de connaissance privilégiée. Quand il essaye d'appréhender ses sociétés, il ne met pas en œuvre une approche historique, il met en œuvre une approche comparative. Donc même s'il se prononce effectivement sur cette question de l'histoire, qu'il ne la laisse pas de côté, le mode de connaissance qu'il faut mettre en œuvre pour avoir une vision adéquate de ces sociétés n'est justement pas de les prendre par l'histoire.
Par l'histoire, sinon on reproduit une hiérarchie factice. Florence Camax.
Oui, tout à fait. On peut m'ajouter à ce point que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens de l'historicité chez Lévi-Strauss, puisque c'est un penseur de la différence et de la production de la différence. Donc l'enjeu pour lui, contrairement à ce qu'on a parfois lu, en tout cas surtout à l'époque, n'est pas du tout de penser des structures figées et de nier la réalité de l'histoire. L'enjeu, c'est vraiment de savoir comment on la pense et comment on l'écrit. Et je crois qu'il est vrai que Sartre a privilégié dans sa pensée de l'histoire le moment, on va dire, actif de la praxis qui se manifeste à travers des ruptures, à travers des événements, à travers des moments d'arrachement qui sont parfaitement illustrés par la Révolution, par les moments insurrectionnels, etc. Ça constitue... Alors, Lévi-Strauss, on y revient, nous dit que ce sont les mythes qui animent la critique de la raison dialectique. Moi, je dirais que ça fonctionne effectivement comme des modèles. Et donc, ça privilégie les moments chauds dans l'histoire ou dans le changement.
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett.
Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, chose insensée. Ils connaissent tout l'univers, de son endroit, de son envers.
Merci beaucoup Florence Kemax et Gilda Salmon d'être venus nous parler de Sartre et de Lévi-Strauss aujourd'hui. Florence Kemax, je renvoie à votre ouvrage Sartre, Merleau-Ponty, Bergson, les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien, paru chez Holmes aux éditions Holmes en 2005. Et Gilda Salmon, plus récemment en 2013, ont paru Les structures de l'esprit, Lévi-Strauss et les mythes, disponibles au PUF.
Qui se retrouvent dans des chapelles. Que se disent-ils, que se disent-elles, des choses profondes. En discutant, ils se méfient de toutes les grandes philosophies. Aucune vraiment ne leur suffit, âme vagabonde. Arrive la confusion des langues, l'évocation du Big Big Bang. Alors tout tourne dans ses tangues, en fin du monde.
Ah, c'est un crève-cœur de prendre la parole sur Charles Trenet, mais vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et il est 10h51. Et vous le savez, tous les jours à 10h51, c'est le moment de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
On poursuit avec les récits de vie cette semaine, et aujourd'hui avec la parution de 40 ans à la croisée des chemins de Christopher Hamilton, paru aux éditions Autremont. La mort et la naissance sont des thèmes classiques en philosophie, mais en revanche, il est rare de trouver un âge pris comme un concept. C'est ce que fait pourtant le philosophe anglais Christopher Hamilton dans un court essai paru aux éditions Autrement, qui s'attache à ce qu'on appelle le démon de midi. Alors pour Christopher Hamilton, tout part d'un événement, celui de la découverte, à l'approche de ses 40 ans, que son père n'est en fait pas son père. Tout ce qui avait été construit jusqu'ici prend alors un autre sens. Quelque chose meurt en lui, mais en même temps, tout ce qui avait été construit est jusqu'ici réaffirmé d'une nouvelle manière, plus puissamment. Voilà, ce qui meurt en lui, c'est finalement une conviction, mais qui n'a aucun fondement, qui est juste contingente. La naissance, finalement, reste un accident. On ne choisit pas ses parents, le moment ou le lieu où l'on est. Par contre, ce qui se trouve réaffirmé, c'est tout ce qui a été véritablement construit, choisi entre des possibles. Avoir 40 ans, nous dit Hamilton, c'est être au milieu de sa vie. La contingence de la naissance laisse place à ce que nous sommes, ce qui n'était que possible est maintenant arrivé. On est proche ainsi de Sartre, dont vous avez déjà parlé, et de sa conception du caractère. Plus on avance dans la vie, dans l'âge, plus on laisse tomber la pure liberté de l'existence pour tomber dans l'être, dans l'essence. On trouve ainsi de très belles pages dans cet essai sur cet entre-deux de la vie fait d'ennui, de nostalgie, mais aussi de plaisir décuplé, car enfin on connaît son corps et ses goûts. Finalement, ce milieu de la vie, à la fois tourné vers la mort et la vie, Hamilton en fait mieux que les poncifs sur la crise de la quarantaine. Et mieux qu'un traité académique, il en fait donc l'occasion de trouver de donner une autre vision de la philosophie, proche de Montaigne par exemple, où tout part de l'expérience pour que chacun découvre sa propre façon de répondre plus pleinement à la vie.
Ouais, pour illustrer ces enjeux, moi je renvoie à l'excellent film Jude Apatow, aussi 40 ans, qui illustre exactement ce que vous êtes en train de dire. Rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
40 ans à la croisée des chemins, Christopher Hamilton.
À la croisée des chemins, on y reste décidément. Merci Géraldine. Les chemins justement touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série d'émissions consacrée au duel de philosophes. Demain, Habermas contre Rawls, Isabelle Aubert avec Céline Spector. Et j'en profite, il me reste quelques secondes pour le faire. Pour vous annoncer une naissance, la naissance aujourd'hui d'un site hébergé par France Culture qui regroupe toutes les émissions de Raphaël Antoven sur un seul et même site donc. Mise en ligne aujourd'hui, vous y retrouverez les émissions des Nouveaux Chemins de la Connaissance jusqu'en 2011 donc et celles du Gai Savoir qui sont diffusées en ce moment. Quant à nous, donc on se retrouve demain. D'ici là, pour écouter l'émission, vous le savez, rendez-vous sur le site de France Culture et puis aussi sur les comptes Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins.